Salut à vous, consoeurs et confrères freelance. C'est Marine qui vous parle, l'entrepreneuse curieuse qui aime savoir comment vous vous débrouillez au quotidien. Et je suis comblée de vous retrouver, toujours un peu plus nombreux à chaque nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose d'entamer une série sur le thème « Travailler en freelance depuis l'étranger ». Pour ce premier épisode en mode expat, on va s'installer le temps d'une interview à Hong Kong. C'est Emmanuel qui va nous guider lors de cette visite. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà sa voix, car Emmanuel est une collègue podcasteuse. Dans « En éclaireur », elle s'adresse aux expatriés et à ceux qui aspirent à le devenir. En septembre dernier, elle a lancé un autre podcast, « Les nouveaux toqués » sur la gastronomie. Quand elle n'est pas derrière le micro, Emmanuel est consultante en marketing digital. Depuis le mois de mai, elle développe sa petite entreprise à Hong Kong. Dans l'interview qui va suivre, elle va nous expliquer comment ça se passe pour elle au quotidien. Il sera donc question de réseau, de clients, de banques, de différences culturelles. Je préfère vous prévenir, cette conversation est un poil plus longue que d'habitude. Alors, installez-vous confortablement. Emmanuel, est-ce que tu peux me dire qui sont tes clients et quelles prestations réalises-tu pour eux ?
Alors, j'ai plusieurs types de clients. Je dirais que j'ai trois types de clients, dont deux principaux. Le premier type de client, ce sont des grands comptes, des corporates. Je travaille avec des grosses boîtes à Hong Kong. Et pour eux, les prestations, c'est de la formation sur les réseaux sociaux. Donc en fait, je fais des workshops pour un peu éduquer les équipes marketing sur les réseaux sociaux et faire en sorte qu'ils comprennent comment est-ce qu'ils peuvent utiliser Facebook et Instagram comme des vrais drivers de business. Le deuxième type de client, ce sont des PME, plus dans le secteur de la restauration et food, donc des restaurants, des sites e-commerce également qui vendent des produits de nourriture. Et là, les missions que j'ai pour ces clients-là, ce sont plutôt c'est la gestion de leurs réseaux sociaux. Donc en fait, je fais du community management sur leurs comptes, principalement Facebook et Instagram, pour leurs clients à Hong Kong. Et j'ai un troisième type de client qui est un peu plus rare, mais ça arrive d'avoir des prestations pour des boîtes en France qui veulent, pareil, que je leur fasse des workshops sur la stratégie réseaux sociaux. Donc j'ai eu l'occasion de faire ces workshops à distance sous forme de webinar, toujours dans un but d'éducation et de formation pour des plateformes principalement de e-learning. Donc voilà un peu le spectre des clients, donc c'est assez varié, mais ça tourne toujours autour des réseaux sociaux, et il y a pas mal d'éducation à faire, parce qu'on pourrait croire que Hong Kong est assez mature sur le sujet, mais en fait, pas véritablement. Je pense que les entreprises sont un peu en retard sur leur compréhension de la puissance business d'Instagram et de Facebook. Donc il y a pas mal d'opportunités du coup pour moi en termes d'éducation à ce niveau-là.
Et comment tu les as trouvés ces clients ?
Alors ça dépend donc du type de client. Déjà pour les clients corporate, donc des grands comptes, là je parle en fait de banques. Principalement et également de groupes médias basés à Hong Kong. Et en fait, c'est via mon précédent travail que je les connaissais. En fait, auparavant, je travaillais pour une grosse start-up canadienne qui s'appelle Hootsuite, qui est en fait une start-up qui vend des softwares, enfin des logiciels pour gérer justement ses réseaux sociaux. Et via ma position chez Hootsuite, j'ai rencontré beaucoup de nos clients et notamment ces banques avec lesquelles j'ai pu faire pas mal de... Enfin, j'ai pu construire de véritables relations. Et j'avais déjà commencé à faire des workshops et à les aider dans leur stratégie social media à l'époque. Donc en fait, j'ai gardé le contact et ils ont encore des besoins d'éducation auprès de leurs équipes marketing ou même auprès de leur management plus exécutif pour leur faire comprendre la valeur en fait, de tout l'investissement qu'ils mettent dans Facebook et Instagram. Donc je continue à avoir des missions pour eux. Pour le deuxième type de clients, qui sont donc ces PME dans la restauration et dans la food, là c'est vraiment via le réseau que j'ai créé depuis que je suis arrivée à Hong Kong. C'est un milieu où il y a beaucoup de Français, donc en fait ça a été relativement rapide d'avoir des contacts dans ce milieu-là, qui est un milieu qui me passionne en plus. Et donc en fait, c'est en parlant tout simplement de mes compétences, de mes expériences, et en voyant qu'il y avait un besoin auprès de ces restaurateurs que j'ai pu commencer à avoir des missions par-ci par-là.
Ton réseau food, donc de ce que je comprends, c'est le plus récent. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment tu t'y es prise pour le développer ? Et est-ce que tu dirais que c'est plus facile d'entrer en contact avec les gens à Hong Kong ?
Pour répondre à ta première question, donc comment est-ce que je développais sur les Zofood, en effet, il est plus récent. Il a commencé quand je suis arrivée à Hong Kong. Donc maintenant, ça fait depuis le mois de février que je suis ici. Auparavant, j'étais à Singapour et je suis arrivée à Hong Kong en février. Et en fait, ça se fait assez naturellement de se créer un réseau en Asie de manière générale, j'ai envie de dire, et à Hong Kong en particulier. Parce qu'il y a en permanence des événements qui sont organisés, que ce soit des événements de la communauté française, des comités d'expats, donc aussi anglo-saxons, ou des événements liés au marketing, à la tech et à cet écosystème-là. Et dans ces événements, ensuite, tu rencontres du monde et tu te rends compte qu'en fait, Hong Kong, c'est un petit milieu et que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et en fait, tu fais vite le tour de ce monde-là, en particulier pour la food. Donc, assez rapidement, j'ai pu avoir pas mal de contacts qui m'ont mise en relation avec d'autres personnes. Et en fait, par rapport à ta deuxième question, oui, je pense que c'est relativement plus simple de se créer un réseau à Hong Kong parce qu'en fait, tout le monde est ouvert aux opportunités. Tout le monde est ouvert aux rencontres. Ça s'explique parce que déjà, il y a beaucoup d'expats, que ce soit des expats qui viennent d'Europe, d'Australie, des États-Unis, ou même d'expats qui viennent en fait, du reste de l'Asie. Et du coup, cette communauté d'expatriés, par définition, elle vient peut-être avec un conjoint, mais sans amis, sans beaucoup de contacts sur place. Donc les gens sont ouverts à la rencontre. Ils veulent se faire des nouveaux contacts, ils veulent créer des nouvelles relations. Donc tout le monde est un peu dans cet état d'esprit de je veux rencontrer des gens et je veux te connaître. Donc c'est très agréable, déjà, tu te sens bien accueilli. Et en plus, ça accélère la construction de ton réseau parce que tu vas envoyer un message sur LinkedIn, tu vas recevoir une réponse dans l'heure qui suit et tu vas du coup avoir le café avec cette personne le lendemain. Ou alors, tu vas avoir un contact par WhatsApp directement. Et il n'y a pas de formalisation de la mise en relation, en fait. Ça se fait très, très rapidement, comme ça, du tac au tac. Et ça fait longtemps que je n'ai plus travaillé en France, mais il me semble qu'en France, parfois, il faut passer par toute une hiérarchie pour finalement atteindre telle ou telle personne. Et puis, tu vas peut-être avoir un rendez-vous dans 2 semaines si l'emploi du temps le permet.
Donc, c'est plus simple de nouer des relations d'affaires, de rencontrer des prospects. Et deuxième étape, c'est aussi plus simple de commencer à travailler véritablement avec ses prospects et d'en faire des clients.
Oui, en effet, c'est relativement plus simple parce que, pas vraiment pour bien insister sur ce point, tout le monde a cet état d'esprit d'ouverture et prêt à saisir des opportunités de business. Donc, si tu viens avec une bonne idée ou si tu viens en ayant déjà repéré un challenge, par exemple, je sais que je vais rencontrer un restaurateur, je vais regarder ce qu'ils font sur Facebook, sur Instagram. Je vais peut-être voir qu'aujourd'hui, en termes d'engagement, il n'y a pas beaucoup de commentaires, il n'y a pas beaucoup de partage de leurs posts. Et peut-être que très rapidement, je peux avoir 2 ou 3 idées que je peux leur proposer pour améliorer ça. Et si je viens au premier rendez-vous avec ces quelques idées qui leur apportent de la valeur, en fait, très rapidement, je peux convertir ça en une première mission court terme et peut-être de courte durée également. Mais ça va nous permettre aux restaurateurs comme à moi, de commencer à travailler ensemble, de voir comment on fonctionne, de voir s'il y a des premiers résultats également. Et ensuite, on voit comment on collabore sur le plus long terme. Mais je pense qu'il y a cette notion vraiment de il faut aller vite, t'as quelque chose à proposer, super, voyons ce que ça donne. Si ça marche, génial pour nous deux. Si ça marche pas, c'est pas grave. On reste en bon terme et on passe à autre chose. Mais on va tester ensemble. Et si on arrive à créer quelque chose d'encore mieux et d'encore plus de valeur ensemble, et on aura tous gagné. Donc, les gens sont vraiment ouverts à ça.
Est-ce que tu peux nous parler de tes objectifs pour les mois à venir ?
J'ai 2 objectifs. Déjà, de continuer à travailler pour mes clients, principalement corporate. Parce que c'est vrai que c'est des missions super intéressantes, tous ces workshops d'éducation que je peux faire sur la stratégie social media. et qu'en plus, moi, j'aime beaucoup faire des choses interactives comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais continuer à développer. Et là, encore une fois, le réseau et le bouche-à-oreille va me permettre de le faire parce que une fois que les quelques workshops que j'ai fait dans ces banques se sont bien passés, je vais pouvoir utiliser ces références et être recommandée par elles auprès d'autres entreprises. Et mon deuxième objectif, c'est un autre projet que je suis en train de monter en parallèle de mon activité de freelance. Depuis quelques mois, j'accompagne des marques françaises, toujours dans le domaine de la food, à se développer en Chine et Hong Kong. C'est-à-dire c'est des marques plutôt de type épicerie fine ou boisson, pour lequel je pense qu'il y a un véritable potentiel sur les marchés asiatiques. Et on est en train de collaborer pour faire toute leur stratégie de lancement et de développement en Chine et à Hong Kong. Donc, comme je disais, la food, c'est vraiment un secteur qui me passionne. Donc je suis heureuse de pouvoir contribuer au rayonnement de ces marques-là en Asie et au rayonnement de la cuisine française de manière un peu plus générale. Et moi, ça me permet de continuer à toucher au digital marketing pour ces marques-là. Et en même temps, j'utilise un réseau de partenaires locaux en distribution, en importation, en réglementation, pour vraiment représenter ces marques ici, dans cette région.
D'un point de vue administratif, est-ce que c'est compliqué de se lancer en freelance à Hong Kong ?
Hong Kong veut vraiment se positionner comme une terre plutôt accueillante pour les entrepreneurs et pour les startups. Et ça inclut les freelances. C'est-à-dire que... d'un point de vue administratif, tu peux très facilement créer ta structure à Hong Kong. En fait, tu n'as même pas besoin d'être résident à Hong Kong pour te créer une entreprise ici. Tu as juste besoin de ce qu'on appelle en anglais un corporate secretary, qui est en fait une sorte de secrétaire au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire qu'il faut une sorte d'agent qui va t'aider pour tes comptes, pour tes audits, etc. Ce qui veut dire qu'en fait, tu as une multitude d'agents qui est disponible à Hong Kong et qui aident les freelances et les entrepreneurs à monter leur structure sur place ou depuis l'étranger. Donc voilà, administrativement parlant, c'est relativement simple. Tu n'as même pas besoin de beaucoup de capital de base. Je crois que tu peux l'ouvrir avec je crois même que c'est peut-être 100 Hong Kong dollars que tu peux mettre en capital de base. Et tu auras besoin de payer cet agent comme corporate secretary. Mais ensuite, c'est bon, ta structure va être créée et tu vas commencer à facturer tes clients très facilement.
Pour avoir un ordre d'idée, l'agent, tu le payes combien ?
Alors, un corporate secretary, donc ça va être à l'année et tu vas le payer, tu peux le payer autour de 3 000 ou 4 000 Hong Kong dollars. Donc ça représente à peu près 350 euros à l'année. Et cette personne, entre guillemets, elle est invisible, hein, encore une fois. Elle est juste garante du fait que tu as des comptes au carré à Hong Kong. Tu peux en plus, enfin certaines personnes payent en plus un véritable comptable pour gérer toute la partie des comptes que tu dois rendre en fin d'année ou selon ton... Enfin, l'année fiscale que tu t'es donnée. Mais en tant que freelance, en général, tes comptes sont relativement simples à tenir et tu n'auras pas besoin d'une expertise comptable supplémentaire.
Tu m'avais dit que pour ouvrir un compte bancaire, ce n'était pas si évident que ça.
Voilà, la seule difficulté, ça va vraiment être le compte bancaire. Parce que historiquement, Hong Kong a été vu comme une terre fiscale plutôt très très avantageuse et a attiré... toutes sortes de business plus ou moins clairs. Et du coup, pour éviter ça et pour mieux contrôler, aujourd'hui, les banques sont très très strictes quand il s'agit d'ouvrir un compte bancaire pour une nouvelle structure. Donc deux choses à savoir. La première, c'est que si tu es résident à Hong Kong, c'est-à-dire que normalement tu as déjà un compte bancaire à titre personnel à Hong Kong, ça va être déjà beaucoup plus facile pour toi parce que on va vite comprendre que tu es là pour faire du business et pas pour faire des montages fiscaux très très ingénieux. Et le deuxième point, c'est que la banque va te demander ton business plan, va te demander de prouver en fait que tu as une activité à Hong Kong, que peut-être tu as déjà des prospects, tu as peut-être même tes clients sur le point de signer. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que d'un côté tu vas devoir prouver ton activité, d'un autre côté tu n'auras pas encore de compte bancaire. Donc il faut être un peu malin à ce niveau-là. Mais voilà, ça reste un obstacle qui est très très facilement surmontable. Et ça peut prendre juste voilà, quelques semaines, peut-être 2 mois, on va dire, pour créer son compte bancaire. Avec une banque locale comme HSBC, voilà, pour être très concret, HSBC, c'est une des banques privilégiées pour les expatriés et de manière générale pour la population à Hong Kong. Ça va peut-être prendre 2 mois avec HSBC. Une solution en attendant que ce compte-là soit ouvert, c'est de faire appel à des banques en ligne comme NIT, par exemple, qui, elles, vont te permettre d'ouvrir un compte très très rapidement avec multi-devises. Donc, tu vas pouvoir commencer à facturer et à recevoir tes rémunérations via ce compte-là avant de passer chez HSBC, une fois que tu seras en mesure de prouver ton business.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'expats qui se lancent en freelance à Hong Kong ? Parce que moi, j'imaginais plutôt que tout le monde avait des jobs dans des grosses boîtes.
C'est assez marrant parce que Hong Kong, du fait de cet accueil plutôt ouvert, réservé aux étrangers et aux expats, en fait, il y a pas mal de gens qui arrivent à Hong Kong sans job et qui parfois vont commencer par une activité de freelance parce que, comme on vient de le dire, c'est très facile de monter ses structures. C'est plutôt facile de se faire son réseau. Et ensuite, on va te donner une opportunité de montrer tes compétences. Donc, être freelance, ça reste une solution qui est plutôt attractive quand tu arrives à Hong Kong et que tu n'as pas encore de travail et que tu cherches un travail. Parce que le marché du travail est assez compétitif ici. Donc c'est vrai que c'est pas évident non plus de trouver un bon emploi bien rémunéré dans une grosse structure. Donc c'est vrai que je connais plusieurs personnes qui se sont tournées en freelance pour commencer leur vie à Hong Kong, et qui même d'ailleurs ont continué comme ça, sans trouver ensuite de job dans des grosses entreprises, mais qui vivent de leur activité freelance et qui se sentent très bien.
On a l'impression que l'environnement est très favorable aux freelance. Est-ce qu'il y a des aspects un peu plus durs à gérer que t'aimerais mentionner ?
L'une des grosses difficultés de Hong Kong, et qui explique en fait aussi pourquoi tant de personnes se mettent au freelance, c'est que la vie est très chère. C'est-à-dire que déjà, c'est la ville la plus chère au monde en termes de loyer. C'est bien plus cher que Paris, c'est plus cher que Tokyo, c'est plus cher que New York ou que Londres. Pour donner un ordre d'idée, même si c'est plus cher que Singapour, aujourd'hui, moi, je suis dans un appartement à Hong Kong de 50 mètres carrés, pour être très transparent. Et à Singapour, j'avais le double et je payais moins cher. Donc là, je me retrouve avec une surface divisée par deux, avec un loyer plus élevé. Et je ne suis pas au centre même de Hong Kong. Donc, le coût de la vie est très cher, que ce soit les loyers, les restaurants, on peut s'en sortir pour pas très cher, mais dès qu'on veut manger des produits de qualité, en fait, il va falloir dépenser. Et si on veut un peu profiter simplement de la vie d'Hong Kong, il va falloir dépenser. Donc, tout cela fait que, rapidement, tu es obligé de trouver un emploi. Et c'est pour ça qu'encore une fois, pour toutes ces personnes qui arrivent sans job, le freelance, c'est une bonne première opportunité parce que tu vas pouvoir être rémunéré grâce à ça. Et du coup, joindre les deux bouts à Hong Kong et rester ici. Donc, c'est parfois par nécessité, en fait, que les gens vont se mettre à avoir une activité de freelance. Du fait du coût de la vie qui peut être, en effet, très contraignante. Si bien qu'il y a des personnes qui partent parce qu'au bout d'un moment, c'est trop cher, quoi, tout simplement.
On avait évoqué aussi le contexte politique en ce moment qui avait tendance à avoir une influence un peu négative sur les affaires.
Comme j'imagine, les auditeurs ont pu plus ou moins suivre. Hong Kong est au centre de quelques tensions depuis le mois de juin maintenant. Donc il y a des manifestations régulièrement à Hong Kong. Et ces manifestations-là ont clairement eu un impact sur l'environnement business. Voilà, pareil, très concrètement, là en particulier, je le sais bien, vu que ça touche mes clients dans le secteur de la restauration, dans le secteur donc food and beverage, on parle d'une diminution de la fréquentation des restaurants et des hôtels de l'ordre de 20 à 40% depuis le mois de juin. Donc, voilà, l'impact, il se fait clairement ressentir. Donc, c'est pour ça aussi que quand je parlais de mes objectifs, c'est vrai que je privilégie aujourd'hui les grands comptes plutôt en banque, plutôt que mes clients restaurateurs, parce que les budgets se servent, se serrent. Et en plus, les restaurateurs sont soumis à la pression du loyer, parce que le loyer est cher pour les individus, mais il est également très très cher pour le retail, et notamment les restaurateurs. Donc c'est vrai que les budgets de marketing se sont restreints cet année moi.
En préparant l'interview, tu avais évoqué une différence culturelle dont tu tiens compte dans tes échanges avec tes clients asiatiques. Est-ce que tu peux revenir là-dessus ?
En effet, la différence culturelle, c'est quelque chose de très très important à prendre en compte quand on travaille à Hong Kong, quand on travaille en Chine ou dans tout le reste de l'Asie. C'était aussi pour ça, moi, personnellement, que je voulais venir en Asie. C'était pour découvrir toute cette richesse culturelle. Pour donner un des exemples les plus parlants à Hong Kong, qui a répandu dans le reste de la région d'ailleurs, mais qu'on retrouve ici, c'est la notion de garder la face. Ça veut dire quoi, garder la face? En fait, ça veut dire que il faut surtout pas mettre tes interlocuteurs dans une situation gênante ou embarrassante, et encore moins s'ils sont avec le reste de leur équipe et de leurs collègues. Donc par exemple, moi quand je fais des workshops dans ces banques, je fais en sorte que ça soit interactif et je fais en sorte que les gens participent, répondent à mes questions. Mais je vais faire très très attention à comment je pose mes questions, à qui je donne la parole. Et par exemple, je vais jamais interroger quelqu'un totalement au hasard avec une question auquel la personne n'est pas préparée. Parce que si jamais elle ne sait pas quoi répondre, en fait là c'est la catastrophe, parce qu'elle va vraiment perdre la face à ses collègues. Elle sera dans une situation très très embarrassante, qui peut même paraître humiliante pour eux. Et du coup, pour moi, ça sera très négatif, et pour elle également. Donc en fait, la relation sera même cassée du fait de cette expérience-là. Donc en fait, il faut vraiment faire attention à comment ton interlocuteur va être perçu par rapport à ce que tu lui demandes, par rapport à ce que tu lui dis. Faire en sorte de toujours la mettre en valeur, et faire attention à ne pas être trop direct dans ce que tu dis. Alors je sais que nous Français on a tendance à être assez francs. Faut revoir ça en fait quand on arrive à Hong Kong, parce que ça peut être très mal perçu, et du coup il y a des conséquences directes sur la relation et sur le réseau que tu es en train de créer. Donc ça c'est des choses qu'il faut bien avoir en tête quand tu fais du business avec des Hongkongais ou même avec des Asiatiques de manière plus générale en fait.
Dernière question qui n'a rien à voir avec le début de notre conversation, est-ce que tu pourrais me décrire ton dernier kiff de freelance, la dernière fois où tu t'es dit ça c'est vraiment cool, j'adore mon mode de vie et c'est quelque chose que je pouvais pas me permettre quand j'étais salarié.
Je pense que mon dernier kiff c'était ce matin. En fait ce matin j'ai reçu un message d'une marque de food, justement, d'une marque food que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, et qui a entendu parler de moi, qui a vu mon travail et qui, du coup, me proposait de commencer à collaborer ensemble, de manière même très très rapide, quoi. Et donc, en gros, elle avait déjà confiance en moi et elle était déjà convaincue qu'on allait pouvoir faire des choses ensemble, juste en ayant parlé avec d'autres clients que j'ai eus et en ayant vu un peu ce que j'ai pu faire. Et en fait, là, c'est un énorme kiff parce que les opportunités commencent à arriver sans que j'ai besoin d'aller les chasser. Je vois que j'ai créé ma réputation en ligne et que ce que j'ai fait a vraiment eu un impact. Et en fait, ça, c'est le kiff d'être freelance, parce que tu te dis que tout ton travail, tous tes efforts, toutes tes idées, tout ce que tu construis, en fait, ça a vraiment énormément de valeur. Et c'est toi qui l'as fait de tes mains, en tâtonnant souvent, en testant encore également très très souvent. Mais finalement, il y a vraiment quelque chose que tu crées et qui a un impact. Et de voir les résultats qui tombent comme ça, et que les gens apprécient ce que tu fais, c'est juste ultra ultra stimulant, ultra valorisant, et ça te donne encore plus envie de donner à fond pour tes clients. Et ça, c'est un sentiment que j'avais pas forcément eu, en tout cas pas à ce point en étant salariée, parce que là c'est quelque chose que tu crées de tes mains.
Et voilà, vous savez maintenant comment vous lancer à Hong Kong. Il ne vous reste plus qu'à acheter votre billet d'avion. Ceux qui préfèrent rester en France peuvent aussi s'inspirer de l'expérience d'Emmanuel. En ce qui me concerne, je compte méditer sur son approche très décomplexée du networking et sa façon d'aborder ses prospects. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà été tenté par l'aventure de l'expatriation? Quelle destination vous attire le plus? Allez, dites-moi tout dans un commentaire sur le compte Instagram du podcast, sur son fil Twitter ou sur sa page Facebook. Peut-être même qu'il y en a parmi vous qui écoutent l'accord depuis Rio, Dubaï ou Reykjavik. Si c'est le cas, soyez sympa, faites-moi signe. Avant de raccrocher, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de le noter dans l'application qui vous sert à l'écouter, en particulier s'il s'agit d'Apple Podcast. Ces petites attentions me touchent toujours beaucoup et permettent à d'autres freelances de découvrir la cohorte. On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures, et d'ici là, surtout, restez libres.